Je fais que des conneries, je fais que des conneries. Je fais que des conneries.
Oh, j'ai trouvé un remède.
Chat alors. C'est pas grave. Le bar à...
Le bar à quoi?
Le bar à chat.
Le talk chat de Radio Saint-Affrique.
Ah, t'es tout à fait chat.
Ouais. Le bar à chat.
Le bar à chat.
Nouvelle émission féline de Radio Saint-Affrique.
Le barachat, l'émission chat, heureuse
de Radio Saint-Afrique.
Et bonjour à toutes, Minette, Minet.
C'est le why. Hein.
C'est un peu la débandade dans le studio. On est seul aux commandes, mais bon, il y a.
Puis il fait chaud.
Il fait chaud. On a un peu nos cerveaux qui fondent. Il y a Félix Potin et Léna qui assurent à merveille la technique. Non. Pour l'instant, tout se passe bien. Donc voilà. Donc, chaussettes pour vous servir aujourd'hui à l'antenne. Moi-même, j'ai loupé l'émission d'avant. Donc, je suis aussi un petit peu rouillée. Donc, on va prendre son temps dans l'animation. On fera peut-être quelques erreurs, mais c'est normal. On a le droit de le faire. Et on va essayer de dérouler un petit peu le fil conducteur de l'émission, même si toutes les nouvelles sont arrivées un petit peu au dernier moment. Donc voilà, on va construire au fur et à mesure. Ça va être un moment très convivial avec vous tous. J'espère que vous nous écoutez sur une petite terrasse à l'ombre, en buvant une orangeade. C'est l'heure de l'apéro, détendez-vous. Nous, on va essayer de vous détendre en tout cas.
Oui.
Alors, petit tour de table rapide des Minettes en présence. Donc j'ai dit donc, à la technique, Félix Potin et Léna.
Miaou, miaou,
miaou.
Nous avons Mémey qui est là.
Miaou.
Manu qui vient d'arriver aussi.
Bonsoir.
Valérie qui nous fait le plaisir de revenir parmi nous.
Coucou.
Et Blanquette.
Oui, bonsoir.
Et moi-même. Donc concrètement, au niveau des papiers, Mémey, tu vas nous parler.
Je vais vous parler de chamanisme et de femmes.
Et de femmes, très bien. Manu, est-ce que tu as un papier aujourd'hui ou est-ce que tu as simplement des...
Non, moi je viens pour réagir au papier des copines.
D'accord, très bien. Du côté des filles, c'est pareil, vous serez en réaction, en commentaire.
Hein. Oui.
Voilà, vous n'avez pas... Mais bon, je pense qu'il y aura des choses à dire. Et moi-même, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, que je voulais évoquer lors du dernier barachat sur les diktats, qui est la grossophobie. Donc voilà, tout plein de joyeuses perspectives.
Puis moi, je vous ferai un tout petit minuscule blind test sur deux petites chansons. Qui parle d'été, où il fait très chaud.
Très bien, okay. Pour se détendre un petit peu.
Petite virgule ?
Petite virgule.
Elle arrive.
Et donc, Mémey, c'est
eh bien voilà, toi. Je veux partager avec vous une bonne ou mauvaise nouvelle, c'est selon... Nous sommes toutes, nous les femmes, des chamanes. Oui, comme je vous le dis. Bon, enfin, faut voir. Tout d'abord, si on passe en revue les articles sur le chamanisme, on peut en première approximation les classer en deux catégories. D'une part, les articles d'anthropologues, ethnologues, spécialistes de telle ou telle société. Et d'autre part, les articles plus « new age », où on parle aussi bien de chamanes, de sorcières, culte de la déesse et femmes reliées au grand esprit. Il va falloir essayer de démêler tout ça et de s'entendre sur la signification des qualificatifs. Commençons par une définition de chaman, en rappelant que ce terme, Tungus, vient de Sibérie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un chaman? C'est celui qui sait, c'est celui qui voit. Tout individu qui, dans l'intérêt de la communauté, entretient par profession un commerce intermittent avec les esprits ou en est possédé. Le chaman est un homme ou une femme qui entre dans des états de conscience altérés volontairement afin de contacter et d'utiliser une réalité cachée en vue d'acquérir connaissances, pouvoirs et facultés de guérison. Le chaman est une personne qui a un travail à accomplir en état de conscience chamanique. Et il doit connaître les méthodes fondamentales appropriées à ce travail. Forte de ces définitions, on peut dire qu'il y a le chaman des peuples dits primitifs, formé par une longue initiation qui repose sur un apprentissage fait de jeûne, d'interdit, d'isolement. Et puis, il y a les néo-chamans. On va tout de suite passer à la catégorie, on va tout de suite parler plutôt des chamans traditionnels. Et en parlant des femmes, hein, les femmes dans tout ça. Eh bien, la situation est assez différente selon les sociétés, mais en tout cas, on retrouve des chamans femmes, certes en bien moindre proportion que les hommes, mais partout. Seulement, et en général, on considère uniquement leur capacité de guérisseuse, et non pas leur capacité de guide spirituel. Il y a des exceptions. En Californie du Nord, en Caraïbes, il arrive que le nombre de femmes chamanes dépasse celui des hommes. Fait notable et curieux, en Patagonie par exemple, mais aussi en Asie, les chamanes, dans certains cas de leur pratique, doivent s'habiller en femmes.
Ayahuasca y mamancunam, chamuririri, ayahuasca y mamancunam, chamuririri, cura cura cuerpecito, callariri, cura cura espíritu, callariri, trainanainanainam, trainanainam, trainanainanainam. Na 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 Nam Toma Pende Mama Kuna Shamori Riri Toma Pende Mama Kuna Shamori Riri Cura Cura Cuerpecito Kaya Riri Cura Cura Espiritu Ini Kaya Riri Tai Nai Na Na Nai Na Nai Na Tai Na Na Nai Na Tai Nai Na Na Nai Na Nai Na Tai Na Na Nai Na.
En mai 2017, je vous ai parlé des règles. Eh bien, en m'intéressant au chamanisme chez les femmes, je me rends compte que j'ai oublié tout un pan de la problématique de la menstruation. Remarquez, ça tombe bien, comme ça, je peux vous en parler aujourd'hui sans me répéter. Voilà ce qui se passe chez les Shipibo-Konibo, peuple de l'Amazonie péruvienne, assez représentatif de l'ensemble des tribus amazoniennes. Autant vous le dire tout de suite, femmes et chamanisme, ça fait problème. Et les autochtones, comme les anthropologues qui viennent les étudier, ont une nette tendance à vouloir ignorer leur existence. Mais la réalité est têtue. Et il y a quand même des ethnologues qui savent prendre suffisamment de distance avec leurs propres présupposés pour découvrir la présence de femmes chamanes. Où est le problème ? Le chamanisme amazonien est généralement décrit comme étant le rôle social masculin, que les femmes ne peuvent naturellement pas jouer en raison de leur état biologique particulier et des tabous liés aux menstruations et à la gestation. Nous y voilà. Je vais vous livrer les résultats d'une étude effectuée par une femme, comme par hasard, Anne-Marie Colperon, qui, sur le terrain, a cherché et trouver l'existence d'une douzaine de femmes chamanes qui exercent les rôles sociaux que l'on croyait réservés aux hommes. Et elles pratiquent leur art en conciliant leur rôle de mère et de chamane. Selon certains discours Shipibo, le sang monstruel... monstre Oui, pour eux c'est monstrueux. Le sang monstruel et la gestation sont incompatibles avec la pratique chamanique. Alors, comment expliquer la possibilité d'un chamanisme féminin ? Eh bien, c'est simple. C'est en suivant, comme les hommes, des tabous particuliers qui leur permettent l'affranchissement de leur corps. Et la puissance d'un chaman ne s'explique pas en fonction du genre de l'officiant, mais plutôt par l'acquisition du savoir grâce à l'initiation. Pour les chibibos, le gros problème, semble-t-il, ce sont les odeurs, auxquelles ils accordent beaucoup d'importance. Importance qu'ils ont transférée aux zibos, maîtres de la forêt, les principaux interlocuteurs des chamans. Les zibos ont horreur des mauvaises odeurs et la communication des chamans avec eux peut être interrompue si de mauvaises odeurs entourent le chaman. Or, il se trouve que l'odeur du sang menstruel est jugée particulièrement fétide. Mais rassurez-vous, les hommes ont aussi leurs faiblesses. Le sperme est considéré comme aussi fétide que les menstrues. L'initiation consiste donc en particulier à l'ingestion de diverses plantes pour acquérir une bonne odeur. Cela commence par une période de jeûne sévère. Le novice se rend volontairement faible, perméable et s'imprègne de végétaux par ingestion. Bain, emplâtre, sauna, il s'isole dans la forêt. Par ses pratiques corporelles, l'initié se débarrasse progressivement de ses comportements et de ses odeurs humaines pour se façonner à l'usage des rao, c'est-à-dire les entités puissantes de l'environnement, principalement les végétaux. Et c'est comme ça qu'ils détiennent un pouvoir particulier et peuvent modifier le comportement humain, comme un poison, un hallucinogène, un médicament, un parfum. Quand ils absorbent ces plantes, hein, les plantes qui sont importantes, ce sont des plantes qui peuvent modifier le comportement humain. Peu à peu, le novice incorpore les diverses parties des plantes qui constituent ses pouvoirs chamaniques. Emprunt de la puissance des rao, le chaman peut alors entreprendre ses traitements et ses luttes chamaniques. C'est comme ça que le chaman peut exercer un rôle de médiation avec les maîtres ibo de la forêt grâce à l'utilisation d'un hallucinogène puissant, l'ayahuasque. Préparez-vous les chattes à titiller votre côté chaman. Respirez, laissez-vous aller. Voici un extrait de chant au cours d'une séance chamanique.
Legítimo y curandero yari, cuidarengue y sesioncita yari. Tainay, nay, 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 nay. Tainay, nay, 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 nay. Tainay, nay, 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 nay. Tainay, nay, 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 nay. Tainay, nay, 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 nay. Nay 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 nay. Ayahuasca y mamaycu nayari. Ayahuasca y mamaycu nayari. Legítima y medicina yari. Cuidar en que cuerpecito yari. Nay 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 nay. Nay 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 nay. Tabaquero y curandero yari. Tabaquero y curandero yari, legítimo y médico y niyari, soplarengue y coronita yari, tainay nay 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 nay.
Mais ça dure tout le long de la séance d'ayahuasca.
Heureusement qu'on avait dit qu'il ne restait plus que 10 secondes de son.
Les femmes chamanes rencontrées ne nient pas le tabou des menstruations. Ouais, mais c'est parce qu'on était entraînés par la musique, là,
ouais,
on n'arrivait plus à en sortir.
Moi, j'avais fermé les yeux, là, j'étais partie.
Ouais, vous planiez grave. Hein.
Bon, le plafond est bas en même temps.
Alors, vous allez voir, c'est assez amusant quand même, hein, la suite. Elles expliquent plutôt quelles précautions particulières elles ont dû prendre lors de leur période menstruelle pour que le relent de leur propre sang ne compromette pas leur initiation chamanique. Ainsi, selon le cas, elles s'aspergent d'eau de Floride, elles multiplient les bains parfumés de feuilles de basilic et se soufflent de la fumée dans de tabac, se créant ainsi un écran protecteur odoriférant efficace contre la fétidité du sang. Et même certaines chamanes se spécialisent dans le savoir du sang menstruel, ne le craignent donc pas et mentionnent l'existence du maître des menstruations, un petit oiseau rouge nommé Rohiroiza. Un autre exemple intéressant du point de vue féminin, c'est le chamanisme coréen. le pouvoir spirituel, le chamanisme en Corée, est détenu par les femmes, les Mudang. Elles forment une communauté indépendante, non hiérarchisée. Ils reviennent aux Mudang d'accomplir des rituels et à cette occasion, elles entrent en contact avec une divinité ou l'âme d'un défunt à qui elles servent de réceptacle lors de leur transe. La danse et le chant font partie intégrante de ces rituels car ils permettent à la chamane d'entrer en contact avec l'esprit responsable du problème pour lequel elle est sollicitée. Les Mudang possèdent un large panel de compétences et remplissent différentes fonctions, dont la célébration de rites, le traitement de maladies, mais aussi la prédication, la divination, voire la malédiction. Et j'en terminerai pour cette première partie. Et bien, un petit peu plus tard, nous verrons ce qu'il en est du néo-chamanisme.
Et alors, c'est le moment. Si voilà. On devrait ramener des petits tambours.
En fait, vous me dites pas si vous voulez de la musique, si vous voulez. On avait dit qu'on le faisait à l'arrache, mais pas tant à l'arrache que ça. Ça serait cool, quoi. Virgule, pas virgule, musique, pas musique.
Eh oui, bah, bon, voilà. Hein. Mais parce que ça devait être dit tout en une première.
Alors, est-ce que tu veux une petite virgule pour
Une petite virgule, est-ce que je peux vous dire quelque chose quand même?
Alors, virgule ou pas virgule?
Allez, vas-y.
Bon, je dirai à la fin.
Vous êtes de retour sur Radio Poutrac. La radio qui fait Nawak. Voilà. Donc, on est contente, c'est l'été. Ouais, c'est plaisir. On espère quand même que les auditeurs ne nous lâchent pas. Pardonnez-nous, c'est vrai qu'il fait chaud. Donc... Et surtout dans le studio, il fait chaud.
Non, ça va. C'est toi qui...
C'est moi. C'est avec la petite cérémonie à Ayahuasca, alors ça m'a donné chaud. Très bien. Et bien, du coup, c'est à moi-même, Chaussette, que revient la suite.
La palme.
Non, pas la palme, mais la suite, en tout cas. Donc, comme je vous disais en introduction de cette émission, sur un papier qui me tient à cœur, enfin sur un thème qui me tient à cœur, dont je voulais parler lors de l'émission sur le thème des diktats. Donc bon, comme c'est l'été et qu'on fait ce qu'on veut, qu'on a dit qu'on était free sur cet été pour juillet et août, voilà, on peut balancer un peu les papiers qu'on veut. Donc moi, je vais vous parler de la grossophobie et donc du culte du corps, de l'apparence, de la minceur. Alors attention aux oreilles, je préfère quand même prévenir, ceci n'est pas un papier safe, c'est pas sûr, c'est pas réconfortant, puisque mes propos sont personnels, n'engagent que moi et relatent essentiellement mon expérience. Je ne parle qu'en mon nom, comme chacun, selon moi, devrait le faire d'ailleurs. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, l'apparence physique liée au poids, et le terme récent de grossophobie et de ce qui se cache derrière, dans une société qui plus que jamais porte au nu le culte du corps, et où paradoxalement, nous n'avons jamais été aussi gros depuis que l'humanité existe. Le gros, en ce début de millénaire, est soupçonné d'avoir mangé plus que sa part, d'être sans volonté, sans discipline. Les femmes surtout semblent avoir intériorisé les préjugés discriminant les gros et valorisant les minces. La preuve, 55% des Françaises ont déjà fait un régime et 70% estiment qu'afficher une taille de guêpe est une simple question de volonté. Alors même que les nutritionnistes mettent en garde contre les dangers des régimes à répétition et que les psychologues sonnent l'alerte des ravages en termes d'image et d'estime de soi que produit l'impératif de minceur sur les femmes qui n'y parviennent pas ou sur celles qui y parviennent trop bien. Alors, ce que ce papier ne sera pas, et ce que vous comprendrez donc qu'il ne sera pas, ce ne sera pas un énième article de l'été vous dévoilant toutes les astuces pour perdre 13 kilos en 2 semaines avant vos vacances d'août sur les plages de la Grande Motte, afin de pouvoir enfin exhiber fièrement votre corps dans votre tout nouveau bikini Les Trois Suisses. Ce ne sera pas non plus une tribune anti-mince maigre pour cracher sur les personnes qui ne sont pas en surpoids et dire que c'est pas juste et que ouin 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 et que les sacs d'os c'est pas beau parce que le respect c'est pour tout le monde et que la diversité ça fait partie de la vie et que ça vaut pour celle des corps aussi. Ce ne sera pas non plus un discours vantant les mérites du surpoids et de l'obésité car c'est ce que beaucoup de gens, de mauvaise foi selon moi, veulent comprendre dans les mouvements récents qui prônent la body acceptance, le body positive, la fat acceptance. Soyons clairs, tout le monde est d'accord pour dire que l'obésité est dangereuse, tout comme une maigreur extrême. Personne ne porte au nu le fait d'être obèse. Ces mouvements visent fondamentalement à ne pas stigmatiser les personnes en surpoids ou obèses. Donc avant d'entrer dans ma tête, quelques chiffres officiels en préambule. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2016, plus de 1,9 milliard d'adultes de 18 ans et plus étaient en surpoids. Sur ce total, plus de 650 millions étaient obèses. Plus de 340 millions d'enfants et d'adolescents étaient en surpoids ou obèses. Et plus de 41 millions d'enfants de moins de 5 ans étaient en surpoids. Ainsi, presque un tiers de la population mondiale est aujourd'hui en surpoids ou obèse. En Afrique, le nombre d'enfants en surpoids ou obèses a augmenté de près de 50% depuis l'an 2000. L'Égypte affiche le taux d'obésité le plus élevé au monde, 35% de sa population adulte. On le voit, autrefois considéré comme des problèmes spécifiques des pays à haut revenu, le surpoids et l'obésité sont désormais en augmentation dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, en particulier en milieu urbain. En France, 6,5 millions de personnes sont considérées comme obèses, soit près de 15% de la population adulte. La proportion des personnes obèses est passée de 8,5 à 15% entre 1997 et 2009. L'augmentation de la prévalence est observée dans toutes les tranches d'âge de la population, y compris chez les seniors. Celle-ci semble plus importante chez les femmes, 15,1%, que chez les hommes, 13,9%. L'OMS estime qu'un Français sur quatre pourrait être obèse d'ici à 2030. Alors, chères auditrices, auditeurs, revenons-en maintenant à ma pomme, car si certains me connaissent, d'autres ne savent absolument pas à quoi je ressemble. Eh bien, voyez-vous, mon indice de masse corporelle me dit que je suis en surpoids, parfois même à la limite de l'obésité. Bon, j'ai pas eu besoin de l'attendre, celui-là, pour le savoir, en toute franchise. Comme l'appréciation des corps, c'est un peu subjectif, selon qui vous juge, certains me disent « Mais enfin, Alex, non, tu n'es pas en surpoids. » D'autres me disent « Ronde, généreuse, parce que c'est plus tendance, plus classieux. » Certains qui ne me disent rien, et tant mieux, me traitent de grosse dans leur tête. Bref, c'est la foire aux bestiaux. Devinez le poids du panier bien garni, composé par chaussettes, et gagnez votre masse en aligosaucisse. Sauf que durant mes presque 34 années d'existence, mon idée à moi, j'ai eu le temps de me la faire sur ma morpho et les défauts de ma silhouette pas parfaite, puisque c'est ainsi que je l'ai vécu et le vis encore. À peine âgée de 3 ans que je comprenais déjà que par rapport à certaines petites copines plus menues, il y avait quelque chose qui clochait. Tout le monde s'est cru habilité à donner son avis sur ma pomme. Parents, famille, amis, médecins, boulot, inconnus dans la rue. Oh, elle a bon appétit, hein. Elle est costaud, elle pourrait être déménageuse ou camionneuse. Pour une fois qu'on féminise de tel métier. Eh ben, elle ressemble pas à sa mère, celle-ci. Donc, ma mère fait moins de 40 kilos, faut le dire quand même. C'est dommage, tu as un si beau visage. Tu serais tellement belle avec 15 kilos de moins. T'es sûre que tu veux du fromage? Du dessert? Te resservir? De la sauce? Des frites? Non mais Alex, c'est bon, lui en donnez pas, elle a assez mangé. Moi je dis ça, c'est pour ton bien, hein, parce que je t'aime. Tu sais, à un entretien d'embauche, en face d'une belle nana, même avec un diplôme plus élevé, on la prendra elle et pas toi. L'apparence fait tout. Oh hein, c'est bon, tout ça c'est dans ta tête, c'est une question de volonté. Fais du sport, mange moins, et puis c'est tout. Ou encore le must. T'as grossi, non? Faut faire du sport, hein. Tu fais pas du sport avec ton copain le soir Je le citerai pas, mais je sais très bien qui c'est. Waouh, du coup, en relisant ça à voix haute, je me dis que j'ai finalement de la chance de ne pas être plus névrosée que ça, parce que c'est violent quand même, tous ces gens qui se sont arrogés le droit de me donner leurs avis sur mon corps, alors que je ne leur avais jamais rien demandé, ni rien dit non plus d'ailleurs sur leur apparence physique à eux. Pour donner quoi au final, après plus de 30 ans de commentaires sur mon physique? Est-ce que je fais un 34? Est-ce que je défile et je défile pour Chanel? Non. Mon IMC est-il de 20? Non. Par contre, j'éprouve un profond mal-être depuis toute jeune quant à l'image que je renvoie. J'ai perdu du poids, puis j'en ai repris. Puis j'ai perdu du poids, puis j'en ai repris. Puis j'ai perdu beaucoup de poids, puis j'en ai repris tranquillou, en loose day. Ma garde-robe va du 38 au 44 selon la période yo-yo dans laquelle je me situe. Je possède plus de 4 tailles de soutif dans mes tiroirs. J'adore l'été, mais mon cœur s'emballe à l'idée que la saison où les corps se dévoilent approche. Moi qui ai si souvent gardé un gilet en plein cagnard pour ne pas exposer mes petits bras dodus à la foule et risquer de brûler les rétines, cacher ce gras que nous ne saurions voir. Je ne compte plus les parties de baignade foirées quand tous mes amis allaient nager et moi restant sur ma serviette, prétextant un mal de ventre ou une migraine pour ne pas dévoiler mes fesses, mes hanches, ma poitrine, mes bras, mes cuisses, bref, mon corps, quoi. Combien de situations de gêne et de honte dans des repas de famille quand j'avais faim, pour de vrai, et que je n'osais pas, et que je n'ose toujours pas, croquer dans ce bout de comté devant la famille, qui n'attendait que ça pour justifier mon embonpoint, et surtout devant ma mère, dans les yeux de Terminator et les coups de genoux sous la table s'étaient activés. Combien de discussions interminables et stériles à expliquer que c'est plus compliqué que ça, que le régime de l'été promu par Femme Actuelle en couverture va surtout m'aider à perdre 2 à 3 kilos de masse musculaire et de flotte sur la semaine, mais que mon gras, c'est bien plus long pour qu'il fonde, et que les mécanismes qui régissent la perte de poids, ça s'apprend. Que les individus qui se décrètent nutritionnistes sur le forum des internets feraient mieux de se trouver des activités plus enrichissantes ou d'ouvrir des bouquins de biologie humaine, s'ils veulent vraiment bien faire. parce que me concernant, et cela touche sans doute d'autres personnes, ce n'est pas perdre du poids qui m'est difficile, c'est ne pas regrossir. Je ne pense pas que des individus rêvent de passer leur vie en étant au régime permanent, si ? La grossophobie m'a eu, et aujourd'hui encore, tenter de se défaire du regard et de l'avis des gens, ou de manière encore plus vicieuse de ce que j'ai intégré comme devant être l'avis et le regard des gens, sur ma personne, et bien c'est ardos. La grossophobie, elle est partout, et elle n'est pas anecdotique pour celles et ceux qui la vivent, non non. D'abord, elle est là pour tout le monde à peu près, en particulier les femmes, qui ont une peur panique de grossir, qui parlent de leur régime tout le temps, qui s'affament, qui détestent leur corps. Elle impacte indirectement même les minces qui craignent de grossir et de rejoindre la catégorie sociale tant méprisée des grosses. Et alors pour les novices, la grossophobie c'est quoi ? Ce terme désigne l'ensemble des attitudes et des comportements hostiles qui stigmatisent et discriminent les personnes grosses, en surpoids ou obèses. Elle a pour origine des préjugés et des stéréotypes négatifs, selon lesquels le fait d'être gros est une question de volonté personnelle et que les personnes grosses seraient ainsi les seules responsables de leur surpoids en négligeant les autres facteurs à l'origine du surpoids. La grossophobie se traduit par des discriminations dans plusieurs domaines de la vie, comme dans l'accès à l'emploi, aux soins médicaux, à l'éducation, et elle affecte également les relations interpersonnelles à travers des critiques verbales et des micro-agressions humiliantes. Cette attitude a des répercussions physiques et psychologiques délétères sur les personnes qui en sont victimes. Risque de dépression plus élevé, moins bonne estime de soi, augmentation de la probabilité de s'engager dans des troubles du comportement alimentaire, suivi médical défaillant. Et les conséquences de cette grossophobie sont bel et bien contre-productives. Il est démontré que la stigmatisation des personnes grosses, au lieu d'avoir un effet bénéfique sur leur mode de vie et d'encourager la perte de poids, renforce les habitudes de vie qui ne sont pas saines et ne mènent pas à l'induction d'une perte de poids. Elle augmente ainsi la probabilité de s'engager dans des comportements alimentaires qui peuvent s'avérer dangereux, binge eating, tu manges beaucoup, troubles alimentaires, consommation plus élevée de nourriture, et diminue celle de s'investir dans une activité physique contribuant davantage à augmenter le risque d'obésité. Aux conséquences directes sur la santé s'ajoutent celles liées à la pression sociale de la grossophobie et à son internalisation. La grossophobie a des répercussions à la fois psychologiques et physiques sur les personnes touchées. Elle engendre un stress qui peut être chronique, augmente les risques de dépression, comme on l'a dit, et des troubles de l'humeur et des troubles anxieux, contribue à la baisse d'estime personnelle et à une plus importante insatisfaction ressentie à l'égard de son corps. De la part des soignants, elle peut décourager la prise en charge médicale ou en dégrader la qualité, allant jusqu'à décourager les personnes obèses de participer à certaines mesures de prévention. Les effets psychologiques liés à la grossophobie peuvent entraîner la modification de certains mécanismes physiologiques associés à l'alimentation. Ainsi, cela peut détériorer le mécanisme de satiété, augmenter l'appétit, la quantité d'aliments consommés et le stockage des graisses. On peut enfin citer les répercussions sociales. Les discriminations liées à l'emploi pourraient ainsi contribuer à la plus grande précarisation des personnes obèses et à leur taux de chômage plus important. Sans compter que la grossophobie peut être subie par un individu de manière simultanée à d'autres formes de discrimination, sexisme, racisme, validisme, et j'en passe. Alors voilà, moi, je ne demande pas à ce que l'on dise que l'obésité, le surpoids, c'est pas grave, c'est sain et vive le gras, hourra. Non, pas du tout, c'est pas le message. J'aimerais juste que dans l'espace public, dans les cercles familiaux et amicaux, les gens arrêtent de se sentir autorisés à commenter librement notre poids, notre apparence, ce que l'on mange, comment on s'habille, qu'on nous lâche la grappe et le bourrelet. C'est presque comme si c'était un geste d'intérêt public que de montrer du doigt les ronds, les gros, les enveloppés, les dodus, les obèses. Taisez-vous, respirez, allez prendre le soleil, jardinez, faites l'amour, lisez des bouquins, écoutez de la musique, chantez, faites-vous cuire un œuf, foutez-nous la paix, foutez la paix à tout le monde en fait. Personne n'est parfait et personne ne doit quoi que ce soit à quiconque sauf à lui-même. Vous aiderez tout le monde et vous-même au passage.
1, 2, 3, 4 Tu dis de me calmer. D'abord, je suis même pas énervé. Pourquoi tu dis de me calmer? D'abord, je suis même pas énervé. Énervé, 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 énervé. Pourquoi tu dis que je suis décalé? D'abord, je suis même pas décalé. Pourquoi tu dis que je suis décalé? D'abord, je suis même pas décalé. Décalé, 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 décalé.
Et voilà.
À partir de quand on considère qu'on est obèse? À partir de quand? Quels sont les critères pour définir l'obésité?
Alors normalement, au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, du corps médical, beaucoup de gens se basent sur l'IMC, qui est l'indice de masse corporelle, où il s'agit en fait de prendre ta taille en centimètres et de multiplier. Attends, ça, tu multiplies par ton poids. Tu peux aussi renseigner ton âge. J'entends un petit fond sonore.
Oui,
c'est normal.
C'est nous, hein.
Voilà.
On a le droit de participer ou sinon on s'en va, on vous laisse, on vous laisse les clés, fermez la grille.
Donc voilà, t'as l'IMC qui va de, qui peut aller très bas quand tu es en situation de maigreur extrême. Et en fait, quand tu dépasses 30, le chiffre de 30, tu es considéré en obésité. Entre 25 et 30, tu es en surpoids. En dessous de 25, entre 20 et 25, tu as un physique normal. Voilà.
Oui, c'est des critères qui sont complètement cons parce qu'en fonction du poids que fait ton squelette, par exemple, eh ben, ça varie complètement.
C'est pour ça que bien souvent, ils le combinent à l'indice de masse grasse. Parce qu'en fait, par exemple, si tu prends un rugbyman, si tu regardes l'IMC d'un rugbyman, on va considérer qu'il est en obésité alors qu'en fait, il a une masse musculaire.
Il est plein de flotte.
Voilà. Donc normalement, on combine les deux et ça donne à peu près. Voilà,
c'est ça. Oui, parce que, je sais pas, dans la préhistoire, je sais pas si vous avez vu des.
Des Vénus,
charnues.
Donc c'était des peuples qui aimaient les. Et puis il y a aussi autour de la Méditerranée. Moi je sais que dans le Maghreb par exemple, les femmes avant de se marier, il fallait qu'elles s'engraissent. On leur faisait bouffer du fenugrec grec particulièrement.
Oui.
Voilà.
Tout à fait,
et ouais. Comme elles bougent pas trop parce que
c'est apéritif en fait le fenugrec.
Et donc elles, voilà, donc ça dépend vraiment des civilisations.
Ah oui, mais après le culte du corps, c'est culturel. On est bien d'accord que c'est quelque chose de culturel. Après en France ou on va dire en Occident, on est plus sur un culte du corps qui favorise la minceur. Mais ça n'enlève en rien l'épidémie, parce que c'est vraiment une épidémie d'obésité qui touche le monde à l'heure actuelle. Ouais. Et à se demander, effectivement, là, on ne va pas se dire que tous les gens qui sont en surpoids et qui sont obèses, c'est juste parce qu'ils mangent trop. Enfin, il y a aussi un gros problème au niveau de l'alimentation. On le sait de toute façon. On parle de malbouffe, on parle de perturbateurs endocriniens, on parle de toutes ces choses-là. Et voilà, c'est important. C'est-à-dire que c'est une maladie, il ne faut pas le nier. Mais pour autant, montrer du doigt les personnes, les stigmatiser, ça ne sert à rien, sauf à rendre des gens malheureux. Et voilà.
Mais n'importe quel stigmatisme, comme tu disais tout à l'heure, je veux dire, c'est toute différence est concernée par ça.
C'est ça.
Mais... Moi, je te trouve magnifique.
Oui, merci. Et moi, je veux rajouter, et en plus, t'as un beau visage.
Non, mais en fait, par rapport à la grossophobie, ce qu'on lit souvent, c'est que, c'est ce que je disais à un moment, il y a tout un tas de stigmatisations par rapport à la couleur de peau, par rapport à la catégorie sociale et tout. Mais la grossophobie, ce qui revient souvent dans la bouche des gens, alors soit des opprimés, soit des oppresseurs, c'est que c'est vu comme quelque chose qui est plus facile en fait à dire. C'est une stigmatisation qui serait presque qui trouverait parfois sa justification dans le fait que le gros, ça renvoie à une image de fainéantise, de paresse, de laisser aller, de quelque chose qui aujourd'hui on est dans une société de contrôle en fait. Et du coup en fait voilà, c'est juste des gens qui n'ont pas de volonté, alors que ta couleur de peau, tu la choisis pas. Par contre, d'être gros, c'est bien toi qui l'as voulu. Donc, finalement, on peut se moquer de toi. C'est là où c'est un peu. Je pense qu'on pourrait trouver d'autres discriminations de ce genre, mais celle-là, elle ressort vraiment, quoi.
Est-ce que tu penses que pour la maigreur, ça pourrait être le même contexte?
J'entends des gens dire effectivement. Ouais.
C'est le cas.
Tu veux prendre du poids, t'as qu'à manger. Il y a des nanas ou des mecs, c'est pas aussi facile, quoi.
Non, bien sûr.
Ils essayent quand même de manger et ils arrivent pas à prendre de poids, donc effectivement, ouais. Sauf que voilà, eux aussi ils en souffrent, mais ça renvoie pas les mêmes valeurs et les mêmes images, quoi.
Puis les médias sont hyper responsables.
Ah oui.
Je pense à toutes les photos de magazines dont on sait aujourd'hui pertinemment qu'elles sont retouchées, alors que c'est déjà des nanas qui rentrent dans des critères.
Bien sûr.
Alors ça, écoutez, chers auditeurs, quand vous voulez acheter une bagnole, il n'y a pas besoin d'une nana à demi à poil avec pas de gras dessus, parce que la voiture elle roulera pas
plus
vite.
Il faut surtout dire au mec qu'elle n'est pas en vente avec la bagnole.
Parce que là en plus on combine sexisme culte du corps, donc c'est assez terrible. Et du coup, je pensais à ça aussi, ce que je lisais la semaine dernière, c'était un article de Libération qui disait que cet été, aux surprises, il y avait moins de magazines féminins qui affichaient sur leur couverture moins 10 kilos pour l'été, le corps en valeur et tout. Ils disaient, c'est plutôt chouette. Ils disaient, mais en fait, les couvertures qu'on a maintenant, puisqu'on est passé un peu dans un autre stade au niveau du culte du corps, c'est un esprit sain dans un corps sain. Et du coup, en fait, maintenant, c'est pas forcément le culte de la minceur, c'est un corps fonctionnel, un corps sain, un corps musclé. Donc, c'est toutes les Instagram de fit girls qui font du yoga à Bali sur des paysages incroyables. Donc voilà, il y a des valeurs d'argent.
Et qui sont payés pour ça.
Et qui sont payés pour ça. Et en se disant que... et puis le no pain, no gain, quoi. Pas de souffrance, pas de récompense. Je vais faire du yoga toute la journée.
Et beaucoup de conneries.
Voilà. Donc on est passé à un truc vraiment, c'est le corps athlétique maintenant, quoi. Et si tu veux, tu peux, quoi. Et en fait, on s'en fout de ton passif ou quoi que ce soit. Si tu veux, tu peux.
C'est ça, marrant, cette espèce de société qui, à la fois, appuie sur de plus en plus sur l'individualisme et à la fois a un regard très, très général. Il faudrait qu'on soit tous pareils, qu'on ait tous les mêmes corps, on ait tous les mêmes centres d'intérêt. C'est très schizophrénique, ça.
Ouais. Il y avait un petit papier. Bah, je m'en suis servi aussi pour faire mon papier aussi à un moment. De Philippe Testard-Vaillant, qui est donc un chercheur qu'on peut trouver sur Internet. Hein, il l'a publié dans le CNRS Le Journal, qui s'appelle « Le diktat des apparences ». Donc, il balaye tout, mais en quatre pages, hein, c'est assez court. Et où il dit justement que plus une société va dans le sens d'une conquête individuelle, plus elle donne de place au plaisir, au désir et donc à tout ce qui touche la sphère corporelle. Et il explique en fait pourquoi actuellement on est là-dedans. Donc, autant on peut se réjouir que... alors, pas le fait d'une société individualiste, mais que les gens... se tournent aussi vers eux-mêmes, pas dans le sens je m'occupe pas des autres, mais voilà, se donnent de l'importance, mais qu'en même temps, bah, contrario, ils se surdonnent de l'importance et ils misent tout en fait sur leur apparence, même des fois au détriment de ce qu'ils sont dans leur tête, parce que on n'est pas qu'une enveloppe, on est une âme aussi, quoi. Donc,
c'est la foire à l'ego.
Voilà, c'est ça.
Est-ce que vous voulez encore rajouter quelques petites choses ou je vous fais un petit blind test de demi-parcours,
Allez, un petit blind test.
Alors, je vais vous lire, c'est un morceau en anglais. Alors, je vous situe à peu près, j'étais très jeune, donc vous n'étiez pas née. Je vais vous lire quelques phrases en français.
Ah,
oui, parce que je suis une buse.
Merci,
merci.
C'est un autre type de blind test,
Si vous trouvez, je vous le passe, et si vous ne trouvez pas, je vous le passe.
D'accord.
Donc, okay. Alors, voudrais-tu dire quelque chose avant de partir? Peut-être voudrais-tu exprimer clairement tes sentiments? On se dit au revoir avant de se dire bonjour. Je t'aime à peine, je devrais m'en moquer. On s'est rencontrés il y a à peine 6 heures. Musique trop forte. Aujourd'hui, je sors de ton lit et j'ai perdu une putain d'année. Et je voudrais savoir comment tu te sens. Comment tu te sens? Comment tu te sens?
Ça, c'est les Beatles.
Non.
J'ai pensé aussi.
Bon, alors,
do you feel?
Les Bee Gees?
Non.
C'est un groupe?
Attends. Deux essais, oui, comment un groupe. Alors, je vous donne un indice. Ils sont anglais.
Eh ben, les Stones. Rolling Stones?
Non.
How do you feel? C'est ça, comment tu te sens?
Ouais.
How do you
feel? Mais c'est pas celui-là.
Qu'est-ce qu'il y a comme refrain?
Bah, je vous le fais écouter.
Ouais,
fais-nous écouter. Là. Ça.
Pink Floyd.
Ah. Alors, ça vient?
Pink Floyd,
du coup. Ben oui, Pink Floyd.
Ah, oui, ah ouais.
Alors Pink Floyd, ça s'appelle Summer 68. Mmh. C'est de l'album Atom, Heart et Mother. Et en fait, c'est
super album d'ailleurs.
C'est un
notre
morceau.
Notre chroniqueuse musicale recommande.
C'est un morceau qui les fait passer en fait du rock psychédélique au rock progressif. Années 70.
J'adore cette chanson.
bon, bah, on va aller courter hein, le morceau. Hein.
Il fait 12 minutes, c'est ça?
Non, il ne fait pas 12 minutes, mais... Alors, j'essaye de l'éteindre.
Bon, du coup...
Appuie sur tous les boutons.
Du coup, je vais vous en proposer un autre.
Oui.
Alors, lui, c'est français, groupe français, 20 ans plus tard. C'est un indice.
Ah bah déjà, c'est dans notre génération.
Voilà. Alors, il y a des fleurs sauvages et même des nouvelles vagues. Et j'ai envie d'aller surfer entre la marée montante et les déferlantes. Mais la mer est dégueulasse et les algues sont grasses. Et la France est gouvernée sur le toit. Des ouvriers se sont embrassés. Oh, mais regarde tous ces flics et qui, au bord de l'eau, s'amusent. Non, non, non. Il y a autant que des mégus.
C'est en français qui chante ?
Oui.
C'est Trust ?
Non.
Laurent Voulzy.
Et toute la plage est prise de panique. Les gens, tout de même, ils sont tous les mêmes. Des mouches sur la bouche. Soudain, l'été dernier...
Ouais, pas téléphone. Bobby Lapointe.
Oh, soudain, l'été dernier, je suppose. Bon, je vous le dis, alors c'est un crasse. Hein.
Indochine. Je la connais.
L'album,
passé Bob Moran.
Alors, l'album s'appelle Le Baiser. Et c'est du, alors, c'est du pur jus New Wave, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Indochine.
Les synthés.
Et le morceau s'appelle Soudain, l'été dernier, je suppose. Et c'est un morceau un peu bizarre, où en fait Indochine compare la vision d'une plage en été au déboire d'une société toujours en mouvement. Mmh. On écoute.
Oh, je suis pas fan. Fait...
Vous êtes à l'antenne.
J'adore.
Je connais pas.
Moi.
Quoi ? Vous connaissez pas Indochine ?
Si, je connais Indochine.
J'ai une frère. Bah non, j'allais pas vous passer des morceaux que vous connaissez tous.
Et la France.
était temps parce qu'on allait perdre Valérie. Elle allait tourner de l'œil là, avec Indochine. J'avoue que bon, il y en a qui adorent.
Eh bien, je sais quoi t'offrir à ton anniversaire.
Il y en a qui
la
salope.
Complète de Indochine.
Un live carrément. Ah, on l'attachera aux chaises dans la fosse.
Obligé d'écouter.
Une nuit avec Nicolas Sirkis.
Oui.
Oh non.
Son synthé.
Enfin, s'il chante pas encore, ça va. Quoi. Le problème, c'est ça, c'est dès qu'ils ouvrent la bouche, je m'en vais
t'aimes
en cours.
T'aimes pas la new wave hein.
Si, mais ce qu'ils font, eux, j'aime pas du tout. J'ai horreur de la manière dont ils chantent. Voilà, c'est bon. Voilà, j'ai
goût électeur.
T'as le droit, t'as le droit.
Tous les nombreux, tous les millions d'auditeurs qui adorent Indochine. Mais voilà, moi, je
donc le mois prochain, tu reviens, je te remettrai de l'Indochine.
je sais pas. Je vais réfléchir.
Bon, alors revenons à nos chamans du début. Oui. Donc avec Cécile,
quand même beaucoup plus intéressant que Indochine.
Qui nous fait cette deuxième partie.
Oui, alors voilà. Maintenant, je vais vous parler du néo-chamanisme. Mais avant de vous parler du néo-chamanisme, une petite remarque sur ce chamanisme autochtone, dit primitif. C'est que les connaissances des chamans ont longtemps été tournées en dérision. Bon, les traités de charlatans, de. Mm-hmm. Voilà. Et à part quelques ethnologues qui ont rendu justice au réel don des chamans, mais sans convaincre leurs collègues. Et il a fallu l'émergence d'une ethnopsychiatrie occidentale pour que le regard sur la science de ces chamans commence à changer. Et maintenant, passons au néo-chamanisme. Eh bien voilà, le néo-chamanisme, c'est dans la civilisation occidentale. C'est une nouvelle forme de chamanisme apparue de par le monde qui se réfère aux rituels et à la pensée des peuples premiers pour se livrer à des pratiques introduites dans l'univers culturel et social de l'homme moderne en quête de lui-même. Ils assimilent ces pratiques au chamanisme originel. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il y a des écoles chamaniques qui sont nées avec un enseignement et des mises en pratique qui se manifestent sous forme de séminaires. Alors, les femmes, puisque c'est notre sujet.
Exactement.
Je vais vous parler maintenant d'un texte de Vicky Noble, une chamane guérisseuse qui se dit spécialiste de la spiritualité féminine et des différents aspects de la déesse. Il s'intitule, ce bouquin, c'est un texte, je ne crois pas que ce soit un bouquin, « Accouchement, sang menstruel et chamanisme ». On y apprend que le chamanisme ancien était avant tout une affaire de femmes. La pratique chamanique d'utiliser le sang lors de cérémonies rituelles a émergé du passé le plus ancien, qui remonterait à la préhistoire, quand les femmes étaient les praticiennes sacrées de l'art magique de la guérison. Et quand les principales substances qu'elles utilisaient dans leur travail étaient le sang menstruel et le sang de l'accouchement. La déesse, dont parle Vicky Noble, représente l'énergie féminine sacrée, universelle, que nous possédons donc toutes, et qui se manifeste particulièrement dans l'accouchement. Donner la vie est quintessentiellement chamanique. Ramener une âme depuis l'autre côté à celui-ci est du chamanisme et de la guérison. La plupart des formes de ce que nous appelons le chamanisme sont des dérivés du prototype originaire, une mère qui donne naissance. Cela a été un secret bien gardé dans notre société, que l'accouchement produit un état altéré de la conscience, un état d'extase naturelle comme celui d'un chaman. Je suis presque sûre que vous ne vous en doutiez pas. Jusqu'à une période récente, une femme, dans son temps de saignement, était considérée comme étant dans un état de conscience élevé et dans la sagesse. La menstruation représente la chaleur de guérison chamanique qui monte à travers le corps et régénère toutes les cellules. Elle apporte avec elle la capacité de faire des oracles, le pouvoir d'entendre la voix de l'esprit et de la traduire ou l'interpréter pour le bien-être de la communauté. Femme chamane, comptez-vous. Vous sentez-vous dans un état altéré de conscience et en relation avec le divin quand vous avez vos règles ou que vous accouchez? Il est temps de vous y mettre. Je témoigne que pour l'état altéré de conscience pendant les règles, je m'en étais rendu compte. J'étais altérée par la douleur et une certaine dépression. Musique. Je m'excuse, je ne l'ai pas dit avant.
Ayahuasca yari, ayahuasca yari, sinche sinche ne disi naiko narai diri, sinche sinche me disi naiko narai diri diri, chuchu washa yari. Chuchu washa yari lehiti mokuram deri toiko nayari kura kura ikuerpesi toiko nayari limpia renge kuerpi toi iko nayari.
Dans elle, sous le titre « Qui sont les femmes chamanes ?», on peut lire. Elles célèbrent l'intuition, la féminité, les forces de la nature. Chaque mois, elles sont de plus en plus nombreuses à fêter ensemble la lune. L'idée est de célébrer le féminin sacré et d'honorer le sang de notre nature cyclique. Il y a aussi un site, « La femme reliée au grand esprit », où on apprend que ça arrive qu'on soit une femme reliée au grand esprit. On est alors chamane en connexion directe avec la sagesse universelle. Les grands pouvoirs féminins de la femme qui est reliée au grand esprit sont la sagesse, la connexion avec les grandes forces de l'univers. Cette femme est une véritable expression du féminin sacré guérisseur. L'article se termine par « Dites-nous sur Facebook quelle est votre relation avec le grand esprit ?» Partagez votre sagesse féminine. Contemplez comment la femme reliée au grand esprit agit sur vous aujourd'hui et réveillez les pouvoirs de cette femme chamane en vous. C'est avec un grand plaisir que Sylvie Bérubé souhaite inspirer les femmes à reconnaître la chamane à l'intérieur d'elle-même. Suivez-nous sur la page Facebook de l'École internationale du féminin sacré. Il y a aussi des propositions d'initiation à la création de cercles de femmes par l'auteur de « Cercles de femmes chamaniques ». Je n'ai pas retrouvé le nom de l'auteur. « L'initiation que je propose ici, dit-elle, est un processus de plein épanouissement de soi qui va puiser intensément dans nos profondeurs et faire émerger tous nos potentiels. Une voie de reconnexion vers notre féminitude, célébrer ensemble la sacralité des femmes, redonner toute la place aux déesses que nous sommes, retrouver le chemin de la confiance et honorer la vie. Tel est mon credo. Il est encore temps de vous inscrire au prochain cycle d'initiation du 28 juillet au 4 août. Chacun repart avec une palette d'outils, communication bienveillante, créativité, rituel, musique, photo, boîte à idées, etc. etc. Cette transmission est un véritable chemin initiatique. Investissement 500 €. Possibilité de régler en 3 fois. Il faudra ajouter les frais d'hébergement, 120 € par semaine, ainsi que nos repas partagés avec ceux que chacune confectionnera avec amour. En conclusion, le plus vieux métier du monde, ce n'est pas la prostitution, c'est le chamanisme.
Dans mon sous-sol crasse où brûlent mes fourneaux, où les âmes damnées grillent de bas en haut, regardez qui est là, qui attise les flammes, régnant sur les enfers, le diable est une femme. rien d'étonnant, n'est-ce pas? Des brunes jusqu'aux blondes, par elles sont advenus tous les malheurs du monde. Le diable est une femme et vous vous en doutiez. La place d'une femme n'est-elle pas au foyer? Sur mon lit calciné, lascive et si cruelle, comment pour m'invoquer faut-il que l'on m'appelle? Mes diables et mes hommes, et Dieu même en personne, tout simplement me nomme patronne. Depuis tant de prophètes, de savants vertueux, l'équation est logique, c'est la preuve par deux. On l'attend proclamer sur un ton formidable, le diable est une femme.
Ah oh bah, on a DJ Coupe tout avec nous.
Et le diable est une femme.
Femme ou déesse, on choisit. Hein.
C'était Juliette.
Juliette,
c'était ouais. Juliette. Ouais, chouette Juliette. J'aime bien Juliette.
Bon alors, est-ce que vous vous sentez
Des questions, des commentaires,
chaman.
Vaste question. Ouais. Je sais pas.
Peut-être commencer par respirer l'air et voir de quelle manière il se
elle est peut-être partie pour
Chose. Pas sûr, mais il manque des boules hein, non quand même hein.
Oh, mais... j'ai gardé le terme de féminitude qui m'a beaucoup fait rire. J'aime bien, je le garde. Et après oui, sans doute à certains moments du mois où on va se sentir plus connecté que d'autres, je pense qu'il faut se poser et sentir pour vraiment
Mais c'est pas absurde, hein. C'est pas absurde du tout qu'on soit dans un état particulier et que qu'on puisse utiliser cet état mm-hmm. particulier si on y pense dans cette façon là. Mm-hmm. Et
mais alors ça veut dire aussi qu'à partir du moment où les règles sont terminées, t'as plus aucune chance d'être chaman, non?
C'est un moment. Voilà. Après, tu vas suivre les cours de machin là.
Oui, d'accord.
De qui?
Mais ça, on pourra en parler parce que la femme suit un cycle, mais à partir du moment où il y a la ménopause et tout, est-ce que ça veut dire que les variations d'hormones dans son corps et tout ça du jour en un, c'est-à-dire que à partir du moment où on est ménopausé, tout s'arrête et alors qu'avant on était cyclique, on ne l'est plus ou il y a quand même
ça s'arrête pas tout d'un coup, hein.
Non, ça s'arrête non, progressivement. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que quand même il continue à y avoir des variations?
Bah, oui, bien dans sûr. Moins en moins. Disons que dans le traditionnel, donc chez les autochtones, il y a beaucoup de peuples qui considèrent que les femmes ne peuvent être chamanes qu'après leur ménopause.
D'accord.
Bon,
mais donc ça veut dire qu'il y a tout un trajet, une éducation.
Il faut une initiation qui est
logique, mais
qui est longue, hein, et que ce soit les chamans occidentaux, ceux qui se disent chamans, enfin qui sont pas trop charlatans, ils sont allés effectivement se former auprès de chamans et pendant des années en se soumettant à des choses qui sont pas très agréables, hein, donc. Mais disons que cette histoire de cycle, moi j'y crois un peu parce que y a quand même dans le chamanisme, c'est un truc que j'aimerais un jour développer avec vous, si vous le permettez, c'est le rapport entre science et chamanisme. Mm-hmm. Parce que il y a un problème là, enfin un problème, c'est pas un problème, mais il y a un gars qui a soulevé le problème des communications possibles entre tous les êtres vivants par l'ADN. Puisque nous avons tous, que nous soyons végétaux, animaux, hommes, etc., nous avons tous de l'ADN, et que l'ADN peut envoyer des signaux, et qu'on peut donc communiquer. Mais pour ça, les chamans, ils font une... ils apprennent à communiquer. Hein, ça ne vient pas comme ça. Ils apprennent
comme,
à communiquer.
Comme pas mal de choses, il faut d'abord que tu apprennes à ouvrir et à écouter une sorte de réceptivité.
Ou que tu réapprennes.
Enfin, ou que tu réapprennes,
parce
tout à fait.
C'est peut-être des choses qu'on savait et qu'on a perdues.
Oui, c'est en cours de route, c'est une évidence. Oui, oui.
Aline, tu n'as rien à nous dire? Nous avons une extérieure...
qui nous a rejoint en cours de route.
Mais moi, je t'avoue que c'est un sujet qui m'intéresse pas mal. Parce qu'il y a 2 ans, j'étais au Pérou et j'ai rencontré une jeune femme qui lisait un livre de Miranda Gray, qui, d'après ce que j'ai compris, qui s'appelle Lune Rouge, et qui a un best-seller dans justement tout ce qui est néo-chamanisme et voilà, les cycles menstruels, etc. Et les rôles qu'en fait tu peux avoir, entre guillemets, tout au cours de ton cycle, parce qu'elle... Elle divise ton cycle en 4, plusieurs...
En 4 ou en 6. Ouais.
C'est ça, avec plusieurs, plusieurs choses différentes. Et bon, alors, j'ai pas du tout personnellement accroché au bouquin, donc c'est un sujet que j'ai mis en suspens dans mon cortex et que, voilà, je... Voilà, bref. Mais effectivement, je pense qu'il faut se mettre en condition parce que c'est... Voilà, dans notre mode de vie quotidien, personnellement, je travaille, etc. Et
on court un peu toujours.
Y a, voilà. Et je sais que dans ce livre, ça parlait, par exemple... alors, plein de gens diront c'est un truc de Pookie, de beatnik, etc. Mais bon, chacun, après, a le droit de penser ce qu'il veut. Mais il parlait de méditation de l'utérus, c'est-à-dire de se concentrer sur l'utérus afin de amener l'énergie dans tout le corps, parce que certains blocages qu'on peut avoir... émotionnels ou physiques peuvent être dénoués, entre guillemets, par cette énergie qui est très très forte, qui nous vient de nos ovaires, etc. Et qui justement travaille beaucoup plus quand on est à un moment de notre cycle, quand on a nos règles ou ce genre de choses. Donc moi, je ne suis pas du tout fermée par rapport à ça. Voilà, c'est tout.
Dans la même veine, j'allais en parler justement à Miranda Gray. Alors, Audrey m'avait prêté le bouquin que j'ai jamais pris le temps de lire parce qu'il est gros. Donc soit je le remprunterai, soit je l'achèterai. Ça, je l'avais feuilleté, il était pas mal. La femme optimale, qu'elle a écrit aussi, qui là vraiment se concentre sur les cycles menstruels de la femme et que dans au cours de ton cycle, en fait, tu as plusieurs périodes qui correspondent à des points forts ou des points faibles pour toi. Ça peut paraître un peu très normé, mais en fait, voilà, il y a des moments dans ton cycle où c'est pas le bon moment pour faire telle ou telle chose. Par exemple, entreprendre ou communiquer. Il va y avoir des phases de repos, des phases d'activation et c'est vachement intéressant. Donc, je pense qu'on y reviendra de faire un papier là-dessus. Il faudra que le mois prochain, tu dis. Il faut avoir le temps de le lire d'ici le mois prochain. J'ai une pile de bouquins. Tu l'as lu ?
Non, je ne l'ai pas lu, mais le mois prochain, je vais faire un papier sur les menstrues et autres réjouissances.
Cool.
Bon, alors, on fera un résumé de... Voilà. Puis on pourra y revenir, de toute façon. Très bien.
Bon.
C'est bon. Alors, une petite virgule et puis une des annonces. Donc c'était le bar à chat du mois de juillet. Merci aux chats qui sont autour de la table. Merci à nos invités de studio de nous écouter. Merci à vous, auditrices, auditeurs. Merci à nos techniciennes chéries, Léna et Félix Potin, qui ont assuré grave, franchement. Un coucou aussi à MC Stitt, qui est actuellement dans le sud-ouest, à donner des coups de pelle dans le sol pour essayer d'extraire... des objets archéologiques. J'espère que tu n'as pas trop
une
chaud.
Une Vénus préhistorique.
J'espère qu'elle s'en sort.
Alors, elle s'en sort et elle est super contente parce qu'elle est protégée du soleil avec son super chapeau Radio Saint-Taf. J'ai reçu une photo.
Ah, donc ça sert. Cette émission, vous pourrez la réécouter en rediffusion. Alors, je suis un peu rouillée, je ne me rappelle plus. Alors, je dirais mercredi et jeudi en journée.
Et samedi soir
Ou alors mercredi et samedi en journée.
Mercredi et samedi, plutôt.
Mercredi et samedi, peut-être. Bon, allez voir sur le site parce qu'il y a aussi le podcast que vous pouvez télécharger, même si vous êtes à Paris, que vous nous écoutez. Voilà. On vous embrasse bien fort. On se retrouve au mois d'août où le thème sera aussi libre. Donc, ce sera la surprise. Vous découvrirez qui sera là, qui ne sera pas là, de quoi on parlera. Et puis, d'ici là, restez à l'ombre quand même. et puis nous aussi, on va aller se remettre à l'ombre parce qu'il fait très chaud dans le studio. Voilà, plein de gros bisous.
Et prenez soin de vous.
Voilà.
Bye bye, bon été.
Miaou.
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 Oh, j'ai cru voir un homme.
Chalor.
Miaou.
Miaou, 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 miaou.
Le barat.
Miaou.
Le bar à quoi ?
Le bar à chat.
Le talk chat de Radio Saint-Afrique.
T'es tout à fait chat.
Miaou.
Le bar à chat.
Le bar à chat. Nouvelle émission féline de Radio Saint-Afrique.
Miaou.
Tcha tcha tcha.
Qu'est-ce qu'on dit ?
Le bar à chat.